Chapitre 17. Les ruses du diable. Le destin nous poursuit comme un démon armé d'un rasoir. Andrei Tarkovski. La Shelby quitta l'autoroute, s'engagea dans un rond-point et prit la première sortie vers la ville. À la frontière du Massachusetts et du New Hampshire, Greenfield était une bourgade figée dans le temps. Sur 2 kilomètres, la Main Street concentrait l'hôtel de ville, le bureau de poste, le tribunal et une grande église blanche au clocher pointu. S'y trouvait aussi la bibliothèque publique, un vieux cinéma à l'enseigne constellée d'une myriade d'ampoules, des cafés, des restaurants et des petits commerces traditionnels. Sur chaque bâtiment flottaient les bannières étoilées du drapeau américain, des Stars and Stripes qui claquaient fièrement au vent dans le soleil de l'après-midi. « Arrêtez-moi là !» demanda Alice en rajustant la lanière de son holster. « Ici ? Mais Barbie nous a dit que le garage de son cousin était à la sortie de la ville. » « J'ai une course à faire, Kane. » Il soupira. « Je croyais qu'on arrêtait les cachotteries. Je ne vais pas me tourner les pouces pendant qu'on nous répare la voiture. Je vais faire un saut dans un cybercafé. Il faut que je vérifie quelque chose. Quoi ?» se méfia-t-il. « Je veux consulter de vieux articles de journaux sur Vaughan. Je vous expliquerai. » La voiture s'arrêta à un feu rouge. Gabriel sortit son paquet de cigarettes. « Il n'y a pas de cybercafé dans ce bled. Je vais trouver Kane. » Il se laissa quelques secondes de réflexion. « Ok, je vous dépose par là, mais vous laissez le flingue dans la voiture. » Cette perspective n'enchantait guère la jeune femme, mais elle n'avait pas le temps de parlementer. Le feu passa au vert. Elle ouvrit la boîte à gants et y enfonça le Glock protégé par le holster. « Je vous retrouve au garage !» lança-t-elle en ouvrant la portière. Elle traversa la rue, rejoignit le trottoir opposé et marcha jusqu'au City Hall. Devant le bâtiment, elle repéra un plan de la ville placardé sous un auvent de bois. Elle scruta la carte et trouva ce qu'elle cherchait, l'adresse d'un centre médical sur Second Street. L'avantage avec les petites villes, c'est que toutes les infrastructures sont regroupées dans le même périmètre. Alice n'eut qu'à parcourir quelques centaines de mètres pour arriver devant un bâtiment flambant neuf à la façade résolument moderne. Une vague ondulée verticale, bleue métallique, qui détonnait dans l'architecture classique de la ville. Elle passa les portes coulissantes automatiques pour pénétrer dans le hall de la bâtisse où était affichée une série de panneaux d'information. En les parcourant, elle constata que le Medical Center était une structure polyvalente, regroupant un large éventail de consultations. Médecins généralistes, spécialistes, laboratoires d'analyse, imagerie médicale. Alice se présenta à l'accueil, affirmant qu'elle venait pour effectuer une radiographie thoracique. On lui demanda sa confirmation de rendez-vous, son ordonnance et son numéro de sécurité sociale. Comme elle ne possédait rien de tout ça, elle livra le premier bobard qui lui passa par la tête, prétendant être une touriste française souffrant d'insuffisance cardiaque qui souhaitait passer une radiographie de routine. La secrétaire lui jeta un œil sceptique, puis consulta les plannings et lui proposa un rendez-vous pour le lendemain. « C'est assez urgent, » insista Alice. « J'aimerais bien voir le médecin radiologue pour lui expliquer mon cas. Bien entendu, je paierai tous les frais. » « Je vais voir, » dit la secrétaire en décrochant son téléphone. Elle parlementa 2 minutes avec une de ses collègues, puis raccrocha avant d'annoncer « J'ai eu la secrétaire du docteur Mitchell. Il viendra vous voir entre 2 patients. » Puis-je avoir votre pièce d'identité ? Malheureusement, j'ai laissé mon sac à main dans la voiture, mais mon mari va venir me rejoindre et il... Bon, montez vite. La salle d'attente de radiologie se situe au 4e. Elle actionna un bouton pour ouvrir un portillon de sécurité en plexiglas qui donnait accès aux étages. Ascenseur, nouveau comité d'accueil, couloir, salle d'attente. La pièce était parée de couleurs claires et douces. Murs blancs, revêtement au sol en PVC, banquette et chauffeuse en hêtre et en tissu. Une vieille dame courbée par le poids des années patientait en tournant les pages d'une revue People. Devant elle, occupant la plus grande partie d'un canapé, un jeune homme bâti comme une armoire à glace, la jambe dans le plâtre et l'œil tuméfié, jouait sur sa tablette. Alice s'assit à ses côtés et engagea la conversation. « Accident de voiture ?»«
Football américain !» répondit l'étudiant en levant les yeux de son écran. « Les gars d'Albanie ne m'ont pas fait de cadeau samedi dernier. »
Belle gueule, sourire ultra bright, regard de cristal un peu suffisant. Il devait faire fantasmer les filles. Et certains garçons.
Ta tablette est connectée à Internet, n'est-ce pas ?
Exact.
Alice ne tourna pas autour du pot. Ça te dirait de gagner $50 facilement ? Il leva un sourcil.
Dites toujours.
Elle sortit un billet de sa poche. Tu me la prêtes 5 minutes et tu empoches les dollars. Facile.
Je marche pour $100.
Va te faire foutre.
Ok, vous fâchez pas,
capitula-t-il en tendant son iPad. La flic s'empara de la tablette, ferma l'application et ouvrit le navigateur pour se connecter successivement au site internet de Libération, du Monde et du Figaro. Si étrange que cela puisse paraître, Alice ne connaissait pas le visage de Vaughn. Lors de son agression, le tueur était casqué. C'est cette dernière image qu'elle avait gardée à tout jamais figée dans son esprit. Un casque noir de prédateur aux lignes tranchantes et aux arêtes vives. Une visière teintée de reflets métalliques. Un extracteur d'air et une mentonnière aérodynamique, comme un sourire terrifiant. Plus tard, lors de sa thérapie, Alice avait convenu avec la psychiatre qui la suivait qu'il ne servait à rien de retourner à l'infini le couteau dans la plaie en compulsant les articles de presse qui évoquaient l'affaire. Mais ce que la psy ignorait, c'est qu'Alice était à l'époque persuadée que Vaughn était mort. Ce qui n'était plus le cas aujourd'hui. Elle lança sa requête et trouva plusieurs photos du tueur publiées par la presse dans les semaines qui avaient suivi l'affaire. Une dizaine de clichés différents sur lesquels Eric Vaughn apparaissait plus ou moins distinctement. Un homme de 35 ans, brun, au physique plutôt agréable, mais passe-partout. Le plus troublant était cette difficulté à établir un portrait définitif de Vaughn à partir des différentes images. Alice pensa à ces acteurs caméléons qu'elle confondait parfois d'un rôle à l'autre, d'un film à l'autre, tant ils étaient capables de se métamorphoser. Hugh Jackman, Christian Bale, Kevin Spacey, John Cusack. Elle tira de sa poche le fax avec la photo de Caleb Dunn et la compara au cliché. Vaughn et Dunn étaient-ils la même personne ? Ça ne sautait pas aux yeux, mais on ne pouvait pas l'exclure. Alice savait que de nos jours, avec la chirurgie esthétique, les possibilités de modifier un visage étaient presque infinies. Certains de ses collègues avaient récemment été confrontés à des criminels ayant eu recours à ces techniques de métamorphose physique. Rhinoplastie, insertion de fils crantés dans le derme pour redessiner l'ovale du visage, autoplastie pour corriger les déformations des oreilles, injection d'acide hyaluronique pour rehausser les pommettes, chirurgie dentaire pour se payer un nouveau sourire. Tandis qu'elle restituait la tablette à son propriétaire, elle sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Seymour. L'homme qui pouvait mettre fin au cauchemar.
Tu arrives à l'usine ?
Demanda-t-elle sans préambule.
Pas encore. Je viens à peine de quitter Sarreguemines. C'était l'enfer pour sortir de Paris et Castelli a mis du temps à localiser l'ancienne sucrerie.
C'est où ?
L'endroit est connu sous le nom d'impasse de Kestelsheim. J'ai entré l'adresse sur mon GPS mais rien n'est sorti. Le système de géolocalisation ne connaît pas. Ne t'inquiète pas, je vais finir par trouver. Le problème, c'est cette putain de pluie. Il caille, il flotte et on n'y voit pas à 3 mètres.
En arrière-fond, Alice entendait le bruit puissant des essuie-glaces et les jingles de l'autoradio.
Le multiplex de Ligue 1, c'est sur RTL.
Je t'appelle pour autre chose,
reprit Seymour.
J'ai dû mettre Savignon et Castelli au parfum. Je ne peux pas leur demander de travailler hors cadre sans leur dire la vérité. Ils passent la nuit au bureau pour démêler toutes les pistes qui pourraient nous être utiles.
Tu les remercieras de ma part.
Justement, Savignon vient de m'appeler à propos du numéro de série du Glock 22 que tu m'as donné ce matin.
Elle avala sa salive. Cette piste lui était totalement sortie de l'esprit.
Oui, celui que j'ai retrouvé dans mon blouson.
Alors ?
J'ai immédiatement interrogé le fichier des armes volées, mais elle n'y figurait pas. En revanche, lorsque j'ai parlé de Vaughn à Savignon, il a tout de suite tilté. Il y a 2 ans après ton agression, lorsqu'on a perquisitionné l'appartement du tueur, on a mis la main sur une arme à feu.
Et ?
Savignon a vérifié les papiers de la procédure. C'était un Glock 22, et le numéro de série correspond.
Attends, c'est impossible ? Ce flingue est sous scellé et...
Savignon a passé 1 heure dans la salle des scellés. Le flingue est introuvable.
Putain !
Le cauchemar continuait.
Il faut que tu me dises la vérité, Alice. Est-ce que c'est toi qui as pris ce flingue ?
Seymour, comment peux-tu me poser cette question ?
Parce qu'on est vraiment dans la merde, là.
C'est quand même pas la première fois qu'on a des problèmes avec la conservation des pièces à conviction. Tu te souviens, il y a 1 an, ce gardien qui se servait dans la salle et qui revendait des armes et de la cam. C'est peut-être lui qui a fait le coup.
Ouais.
Et même si j'avais volé cette arme, Comment aurais-je pu l'introduire sur le sol américain, passer les contrôles de sécurité et d'immigration ?
Elle entendit son coéquipier soupirer.
Je ne demande qu'à te croire, Alice, mais il faut vraiment tirer cette histoire au clair.
Elle sentit qu'il ne lui disait pas tout. Tu as autre chose ?
Oui, et tu ne vas pas aimer. C'est à propos de ta voiture.
Tu l'as localisée ?
Oui, à la fourrière de Charletti. Savignon s'est renseigné. Les agents de la préfecture l'ont remorqué cette nuit depuis l'île de la Cité.
Où exactement ?
Seymour prit une longue respiration.
On a retrouvé ton Audi à 4h du matin, en plein milieu du pont de l'Archevêché, exactement à l'endroit où Paul a eu son accident.
Sous l'effet de la surprise, la jeune femme faillit lâcher le téléphone. À cet instant, la porte de la salle d'attente s'ouvrit et un géant en blouse blanche passa la tête dans l'embrasure.
« Madame Alice Schaeffer ? »
demanda-t-il à la cantonade.